Bien, alors donc là vous êtes sur Saint-Malo, vous arrivez du Québec, de quelle réserve vous provenez? Est-ce que les réserves existent? Et où est-ce que vous êtes des citadins ou est-ce que vous habitez dans des réserves? Et quel métier, quelle occupation vous avez?
Okay. On vient de trois communautés différentes, trois communautés indiennes. Dans Manawan, il y a quatre personnes du groupe là, de six. Il y a une personne d'Obidjouan et une personne de Wimantashi. Manawan veut dire là où on ramasse les œufs. Wimantashi, ça veut dire là, du monde là où on observe.
Ouais.
Et Obidjouan, c'est la rencontre des deux rivières qui font un tourbillon. On est de la nation Atikamek.
Ouais.
Il y a environ 4000 Atikamek au Québec.
Ouais.
C'est dans ma communauté, il y a 1700 personnes.
Ouais.
Obidjouan, il y a 1900 de population et Wimantashi, c'est
1000 à peu près.
1000, ouais. Nous autres, on reste dans la communauté, dans notre communauté. Puis, je vais parler pour ma communauté. Il y a sur 1700 de population, 60% ont moins de 29 ans. Il y a 45 naissances par année. La force de travail, c'est de 200 personnes. Et sur 200, il y a 60 personnes qui ont des emplois permanents, soit des emplois de bureau ou encore des emplois d'entretien
à radio.
Ouais, ou de maintenance des infrastructures d'eau potable et d'eau usée. Et, il y a environ 40% qui sont à des emplois saisonniers. Ça veut dire que c'est la construction, là. C'est juste durant l'été qu'ils font les constructions, ou durant une période de 4 mois dans une année. Puis le reste, ben, ils autres, et la grande partie, font des activités traditionnelles. Il y a la chasse, la trappe, la pêche, la cueillette des fruits sauvages. Et beaucoup font de l'artisanat pour qu'il y ait un revenu substantiel, ou c'est un revenu d'appoint qu'on appelle.
Alors le travail dans les bureaux, hein, ce sont des travaux qui ont lieu sur la réserve même ou les gens qui travaillent dans les bureaux s'en vont effectivement travailler en ville?
Okay. Dans chaque communauté, il y a un bureau qu'on appelle le bureau du conseil de bande. Les autres, ils s'occupent de la gestion des fonds qui sont envoyés là, par les gouvernements. Puis ils s'occupent aussi des services en éducation. Puis il y a l'autre partie, mais qui a pas beaucoup de personnes, ils s'occupent des programmes d'assistance sociale.
Alors, bon, maintenant, il y a la chasse également. Vous avez donc toute une réserve, vous avez des terres à vous. Comment ça fonctionne au niveau de... Est-ce que vous avez des concessions sur les terres ou est-ce que ce sont vos terres traditionnelles que vous avez conservées? Comment ça se passe là?
Okay. Quand on parle de réserve, c'est un espace restreint qui est reconnu, qui a un statut particulier au niveau législatif. Là. Et nous, on dit que notre territoire, il va au-delà de la superficie de réserve. Pour ce qui est de Manawan, le territoire ancestral, il couvrait 40 000 carrés. À un moment donné, il y a eu des problèmes concernant les populations de castors. Puis les gouvernements y avaient décrété un espace restreint là, pour l'élevage de castors. Puis ils appelaient ça les réserves à castors.
Mm.
Donc il y a trois points de vue concernant les territoires où l'espace qui est réservé aux Indiens. Donc, la première, la réserve indienne, pour nous, Manawan, c'est 1 000 par 3. Puis on a dit que là, c'est vous êtes chez vous. Vous avez plein de droits. Puis nous autres, on a dit, non, notre territoire, il couvre plus grand que ça. Dans le passé, on occupait une plus grande superficie. Donc, le gouvernement, lui, à un moment donné, il a dit, ben, comme ça, vous avez le votre territoire, c'est ce qu'on appelait anciennement le réserve à castor. Mais nous autres, on reste sur notre position que notre territoire va au-delà de ces espaces-là qu'on a nommés la réserve à castor.
Et là, est-ce qu'il y a une négociation entre vous et le gouvernement ou les autorités locales sur cette surface?
Oui, depuis 1975, il y a eu des procédures qui ont été entreprises pour les négociations territoriales. On est affilié ou on a une alliance avec les montagnais. Donc là, il y a un organisme sociopolitique qui nous représente qui s'appelle le Conseil Atikamekw Montagnais. Et eux, depuis 1975, ont entamé le processus de négociation territoriale. Puis là, il y a déjà eu une entente cadre qui appelle, ça veut dire les ententes sur quels éléments qu'on va négocier. Il y a eu aussi une entente qui appelle l'entente sur les mesures provisoires. Ça voulait dire que pendant qu'on négocie, nous les Indiens, on peut pratiquer nos activités traditionnelles de trappe, de pêche, de cueillette, de fruits sauvages, de chasse, puis qu'on n'allait pas être emmerdé par les autorités de conservation de la faune. Mais en retour de ça, il y a des coupes à blanc de nos forêts.
Oui.
Puis c'est bien que maintenant, peut-être par ironie du sort, on s'amuse à appeler cette entente-là l'entente sur les mesures dérisoires. Au lieu de l'appeler l'entente sur les mesures
dérisoires. Il y a des coupes, c'est-à-dire on rase, enfin on exploite le bois, les forêts, c'est ça?
Oui.
Sur votre territoire?
Oui, le territoire qu'on est en train
de négocier.
Oui, de négocier. Puis là, c'est paradoxal.
C'est le territoire qu'on est en train de chasser aussi.
Même les territoires,
même les territoires qu'on est en train de chasser, là, même ils sont tout rasés, tout brisés. Là. Les animaux, les castors, les gibiers là, qu'on mange. Aujourd'hui, les territoires où qu'on chassait, là, c'est plus les territoires de chasse.
Donc, vous avez l'impression que avant de négocier, ou pendant une négociation, en fin de compte, on porte atteinte aux forêts et à votre pays, quoi, à votre zone naturelle de chasse et de pêche. Vous avez l'impression, donc, automatiquement, il y a une atteinte à l'environnement, quoi, à la nature.
C'est pas juste une impression, c'est effectif dans la réalité. Nous autres, on veut négocier de bonne foi, ou nos leaders politiques négocient de bonne foi, et le respect la bonne foi qu'ils ont, là, il est bafoué par les attitudes et les actions de ce qu'on appelle des gouvernements. Mais c'est les multinationales qui sont derrière toutes ces actions-là.
Alors, ces territoires, actuellement, appartiennent à qui?
Nous autres, on dit que on a des droits ancestraux sur ces territoires. Puis le gouvernement, les autres, ils disent oui, vous avez des droits ancestraux, mais il faut les définir. Puis ils utilisent le figuratif que c'est une boîte vide qui est à remplir. Alors nous autres, on dit c'est une boîte qui est pleine déjà. Il s'agit juste de voir ce qu'il y a là-dedans et qu'on le définisse. C'est le figuratif qu'on utilise maintenant dans les négociations. Puis concernant le territoire, pour nous, c'est une valeur autant spirituelle. Mm. Puis notre culture y est attachée, y a ses racines sont sur ces territoires-là. Puis on a un concept qui est très différent de la société qui veut surexploiter nos territoires. Nous, on dit que c'est... nous autres, on appartient... la terre ne nous appartient pas. On appartient à la terre. On n'a pas les mêmes titres de propriété. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est différent dès le départ. Puis il y a une autre sage ou d'autres leaders disent que cette terre-là ne nous appartient pas. Il nous est prêté par nos enfants. Donc, nous, on trouve que c'est quand même des bons concepts.
Donc, au travers de la Terre, vous revendiquez votre identité.
Oui, c'est bien ça. L'identité culturelle qui nous est propre. Puis il faut aussi dire qu'on croit à la cohabitation. Il s'agit juste de s'entendre. Les concepts qu'on a sont différents des concepts de la société dite blanche, là, sans péjoratif. Et eux, quand on négocie, ils veulent tout le temps axer les discussions vers l'aspect administratif.
Oui.
Puis on dit, on ne peut pas être soumis à des principes administratifs. Tu vois? Puis on les amène sur des aspects un peu plus politiques. Puis là, ben, peut-être qu'ils sont mal à l'aise, mais ils reculent. Puis, il y a un de nos leaders qui est un négociateur ou qui travaille depuis 10 ans dans le processus de négociation. Il disait que maintenant, tu sais, ce qu'on veut là, réellement, puis effectivement, il faut démontrer qu'on est capable de faire une arrimage des concepts.
Oui.
Mais il faut négocier de bonne foi.
Donc là, c'est un peu la revendication de la génération contemporaine. D'aujourd'hui, vous, un jeune, c'est effectivement négocier administrativement sur les mêmes bases que les autorités, mais par contre en revendiquant vos terres ancestrales, c'est-à-dire votre identité, votre culture, pour retrouver votre souveraineté. Est-ce que vous revendiquez en tant que nation ou en tant qu'individu? Et également, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que vous posez un problème foncier, c'est-à-dire à qui appartient la terre? Est-ce qu'elle appartient au niveau d'un groupe, d'une communauté, c'est-à-dire d'une nation, alors que l'administration considère que la propriété, théoriquement, c'est un individu?
Ok. Là, notre idée, c'est que le territoire, il est communautaire. Il appartient à une communauté ou il appartient à la nation. Il n'y a pas un individu qui peut dire « ça, c'est ma propriété privée ». Parce que dans notre façon de fonctionner, on donne un titre à une personne, on dit « tu vas couvrir ce territoire-là ». Mais ce n'est pas un titre de propriété, c'est juste un titre de responsabilité, de le surveiller pour pas qu'il soit saccagé ou de veiller à la protection de cette partie du territoire-là. Il n'y a pas de titre de propriété. C'est individuel. Il est communautaire. Puis c'est la même chose dans les... même dans notre communauté, il y a des lots qui sont donnés pour les maisons. Puis les lots, ils n'appartiennent pas à l'individu. Ils appartiennent à la communauté. C'est à la bande. Puis il y a le... Pour ce qui est des maisons aussi, c'est à la bande. C'est une propriété qui est communautaire.
Alors, oui.
Moi, je voulais dire, c'est par rapport au langage aussi, il faut que vous appreniez le langage de négociation enfin, pour pouvoir défendre vos droits.
Là-dessus, il y a, depuis nombre d'années, là, il y a des personnes qui ont acquis des connaissances, puis aussi de l'expérience dans ce domaine-là. On a des bons leaders auxquels on a une grande confiance.
Alors, il y a eu des événements l'année dernière. Bon, ici, on a entendu parler des Amérindiens parce qu'effectivement, ils avaient des actions, entre guillemets, terroristes. Alors, c'était les Warriors, c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous revendiquez comme Warriors, est-ce que vous avez vous-même participé à ces actions?
Non, c'est plutôt, nous autres, on essaie toujours de revendiquer pacifiquement, tu sais. Nous avons toujours, par chez nous, on est toujours des gens pacifiques, on appelle. Là.
Ouais.
Puis, qu'est-ce qu'ils donnent?
Est-ce que vous avez participé à ces actions?
Non, j'ai participé juste à la télévision.
Ouais.
Mais non, j'ai pas participé, j'ai vu que,
que mais, c'était... Et êtes-vous solidaire de, du combat qui a été mené par... c'était quelle réserve qui menait
ces actions-là,
surtout
Oka, Kanawagi, qui a attaqué.
Et est-ce que vous êtes solidaire?
Qui est solidaire, alors?
Est-ce que vous êtes un singe?
Tapchkout, ben, d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ouais. Moi, je suis d'accord parce que le territoire qu'il y avait, là, ben, c'est tout ce qu'il y avait dans leur territoire. Et parce qu'il y avait juste un territoire auquel on pouvait faire, que les Blancs voulaient faire un terrain de guerre. Que les Mohawks ne voulaient pas que ce soit comme ça. Parce que c'est tout ce qui reste comme, comme territoire. Mais je suis un peu d'accord parce que c'est, les seuls, c'est, le seul, c'est la seule façon, moi, d'après moi, pour arrêter le terrain de golf.
Ouais. Alors, en tant que jeune Amérindien, est-ce que vous souhaitez, désormais vous préférez rester dans vos réserves, c'est-à-dire reconstituer une nouvelle nation amérindienne, ou vous intégrer à la société québécoise?
Ben, y a, comme je disais, là, y a, on croit à la cohabitation. Mais tu, la cohabitation, c'est aussi sur une base de respect des deux entités culturelles qui sont différentes. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Puis quand on parle d'intégration, là, je suis toujours vigilant parce que souvent, il y a ça des connotations d'acculturation ou d'assimilation. Puis concept-là, ben, moi, je n'adhère pas à ça. Moi, c'est ce que je veux. Il y a des personnes dans nos communautés qui veulent être qui veulent rester traditionnalistes avec leur tradition, ils sont à l'aise là-dessus, ils sont bien équilibrés en santé avec ça. Puis tu as d'autres personnes qui veulent avoir les valeurs des deux cercles de culture. Puis ils sont à l'aise à ça. Mais j'en connais très peu là qui renient leur identité culturelle. Qui veulent s'assimiler, j'en connais très très peu. Puis il y a même, je pense pas que ça vienne à ça, mais si tu aurais du monde chez nous qui choisirait ça, on respecterait leur choix, mais pour le moment, actuellement, il y a environ 60% du monde qui sont traditionnalistes, très traditionnalistes, là. Puis tu en as 40% qui sont semi-traditionnalistes. Ils vivent ou ils côtoient les deux cultures.
Et comment ça se passe quand quand on côtoie les deux cultures, ben justement? Quand on reste chez soi, bon, ben, y a pas de problème sans doute, mais quand on côtoie les deux, qu'est-ce qui se passe?
Quelquefois, ça génère des critiques, des questionnements, c'est à savoir si l'identité va rester sur ses origines ou s'il va changer, puis à quel rythme. Mais les personnes qui vivent avec les deux cultures, souvent, ils sont un peu plus avant-gardistes que les autres. Ils savent comme le pouvoir économique, ça génère le pouvoir politique. Puis les autres, ils manipulent assez bien ces valeurs-là. Puis t'as des personnes de nos communautés, ils disent, bon, lui, il commence à être acculturé, là, c'est parce que la monnaie est le pouvoir, c'est la puissance économique. Mais il faut être conscient que quand même, ça semble être un principe de société que celui qui a le plus de pouvoir économique, il va avoir plus de pouvoir politique. Puis pour pouvoir avoir le pouvoir politique, il faut passer par cette voie-là.
Non, je sais pas, on pourrait peut-être demander... à chacun ce qu'il fait, enfin, ce que vous faites, quoi.
Comme travail ou...
Je sais pas ce que vous avez envie, hein.
Mais moi... moi chez nous c'est je travaille dans une station de radio comme toi, comme vous là. Puis moi je suis le gérant de la station de radio. Puis des fois aussi je parle aussi que un micro là, tu sais, pour le monde là, pour donner l'information qu'on appelle. Puis c'est une idée.
Alors là, c'est une station de radio, mais propre à votre réserve, village.
Oui, c'est à nous, cette radio. Là, c'est au conseil de bande, c'est pas une compagnie, là, c'est comme Télévec.
Ouais.
Ben, pas Télévec, 4 saisons. Mais là-bas, c'est 4 saisons qu'on appelle station de télévision. Là. C'est pas le blanc, c'est à nous, les Amérindiens.
Alors, combien? Vous êtes combien pour... travailler à la radio là.
Actuellement on est 7, 7 je pense, ouais. Puis nous là-bas on fait des jeux à la radio, comme des bingos.
Et alors, mais vous parlez en quelle langue à la radio?
L'Atikamekw. Seulement l'Atikamekw. notre langue là, tu sais.
Ah ouais?
Notre langue est plutôt haut.
Alors uniquement à la radio, c'est-à-dire vous faites le bingo et tout ça, mais dans votre langue, uniquement. Donc là, il y a... c'est jamais, il n'y a pas de, d'intervention en français ou en anglais, non.
La radio communautaire de Manawan, il y a l'utilisation des deux langues. Parce qu'il y a des personnes... de la communauté qui sont pas originaires de la communauté, c'est des professeurs québécois. Il y a des professeurs blancs, un professeur haïtien. Il y a les intégrer dans notre communauté, on fait des communications en français, mais c'est un faible pourcentage. Parce que notre but aussi par l'acquisition d'une radio communautaire, c'était avant tout pour les négociations, qu'il soit un véhicule d'information. Et le deuxième but, c'est la préservation de la langue, pour qu'elle soit vivante et une intrusion subtile dans chaque maison. Là, puis, moi, ce que je fais, c'est que je suis intervenant en santé communautaire.
Ouais.
Ça fait 11 ans que je fais ça. Je fais de la prévention au niveau des maladies.
Mm-hmm.
De l'information aussi sur les services de santé qui sont offerts à nos populations. Puis je fais aussi de l'éducation sanitaire. Puis la promotion de la santé.
Mmh. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est comme dans les réserves indiennes aux États-Unis, on voit beaucoup de gens qui sont qui subissent effectivement l'alcoolisme et des la drogue ou autre chose comme ça? Comment ça se passe chez vous?
Dans notre communauté, il y a eu une période où il y avait un haut taux de problèmes d'alcoolisme. Puis depuis au moins 2 ans, il y a un mouvement qu'on appelait CAD, mouvement contre l'abus d'alcool et de drogue. Puis depuis au moins 2 ans, là, on a fait des actions concrètes et tangibles pour contrer ces problèmes-là. Et on sait maintenant pertinemment que le problème d'alcool, là, c'est juste un symptôme d'une malaise sociale et culturelle. Puis on travaille beaucoup plus maintenant sur les racines culturelles. Je sais qu'il y a été une année, je pense en 82, à travers le Canada, il y avait 17 millions de dollars qui étaient dépensés pour la construction des centres de désintoxication. Puis il n'y avait même pas la moitié de ce montant-là, là, de 17 millions, pas la moitié qui allait dans le développement économique. Donc c'était presque une façon, une personne qui a une bonne analyse va se dire, on essaie de les maintenir dans cette situation-là. Puis c'est de plusieurs qui ne souffrent pas d'alcoolisme. C'est juste parce qu'il y a... Ils sont mal à l'aise avec les situations, les conditions de vie auxquelles ils sont soumises.
Non, parce que non, c'est trop compliqué par rapport au malaise, là. Parce que moi, je ne sais pas comment on parle.
Non, enfin, on peut poser la question. Est-ce que Oui, mais on peut poser la question. Vas-y.
Parce que je travaille actuellement. Mmh. Je suis institutrice et... j'ai vécu un peu la même chose que vous parce que je suis originaire de la campagne, mmh. avec des parents qui parlent un dialecte. Mmh. Et donc je connais un peu les problèmes qu'il y a justement de venir de la campagne et d'aller dans une école et d'apprendre à l'école, en plus tous les problèmes que ça pose au niveau de l'école. Et actuellement je me suis inscrite à l'université à Rennes pour travailler là-dessus aussi. Et j'aimerais travailler sur le malaise justement, enfin je veux travailler sur le malaise et la honte et tous les problèmes qui naissent justement dans la confrontation entre les deux cultures, quoi. Mm-hmm. C'est à ce niveau là quoi. Et moi j'aimerais bien savoir comment ça naît le malaise, enfin la honte, est-ce que vous l'éprouvez, c'est quoi?
Je sais que quand je disais tout à l'heure que le problème d'alcoolisme c'est juste un symptôme d'un malaise. C'est que à un moment donné, le rôle des parents, qui était quand même pour nous sacré, là, il était dévalorisé. On nous a envoyé, moi j'ai 31 ans actuellement. Quand j'avais 4 ans, là, on est venu me chercher dans ma famille, puis on m'a dit, tu vois, on va voyager, on va faire un beau voyage. Puis j'ai resté 16 ans à l'hôpital, dans un pensionnat plutôt. Puis j'avais juste un mois et demi là, que je voyais mes parents. Au bout de 16 ans, là, ça fait juste un an que tu as vécu avec les parents. Puis ça, mes parents, pendant ce temps-là, leur rôle de parent, il a été dévalorisé. Puis on a connu vraiment une coupure ou une fossé entre deux générations. Puis là-dessus, il y avait des confrontations là, des générations. Mes parents me disaient, là, quand on m'emmenait dans le bois, tu connais rien. Puis moi, je leur disais aussi, toi aussi, tu connais rien. Parce qu'ils ne savaient pas compter, ils ne savaient pas lire. Mais il y avait d'autres choses, d'autres connaissances que moi aussi, je n'avais pas. Puis là, il y avait confrontation. Puis à un moment donné, tu te sens déraciné de ça. Puis j'ai vécu le problème d'alcoolisme quand j'avais 18 ans. Là. À 18 ans, j'ai lâché l'école. Puis quand j'étais 2 ans dans ma communauté, là, puis je voyais ça, les problèmes de consommation, de surconsommation d'alcool, c'était évident pour moi. Mais après 4 ans, là j'étais dans l'action aussi de ça. Puis il a fallu que je sorte un peu de mon milieu pour être plus objectif, là, puis à plus une perception. Là,
vous parlez français?
En tout cas,
j'ai pas entendu un petit garçon qui pleurait sa maman. On a perdu notre petit garçon. Un enfant de 7 ans.
Ouais, la police, vous...
C'est où la police?
Juste à côté.
Juste là?
Oui, ouais. Vous descendez, vous tournez à droite là.
Moi, je pense. Bon.
Merci.
En tout cas, là-dessus, moi j'ai. Maintenant, je suis intervenant dans le domaine de la santé, puis j'aide d'autres personnes qui ont connu les problèmes liés là, à la consommation d'alcool.
Et est-ce que vous ressentez toujours ce malaise là, aujourd'hui, je ne sais pas, moi je l'ai vécu comme ça, comme on ne sait plus où se situer, on est entre deux choses, et on est quand même toujours mal à l'aise, soit par rapport à une culture ou à l'autre, puisqu'on est éclaté entre deux choses.
Je sais que moi heureusement, j'ai pu rentrer en communication avec une personne là, qui était muséologue et animateur culturel. Puis il m'expliquait la façon de voir les choses. Puis il y a un thème qui m'expliquait, c'est qu'il était une personne qui pouvait être transculturelle, voyager d'une culture à une autre, puis être très à l'aise. Puis c'est ce que je me suis efforcé de faire. Jusqu'à maintenant, je suis à l'aise et je préserve ou je conserve toujours mon authenticité. Je m'identifie toujours en tant qu'Atikamekw.
Et aujourd'hui, là, vous êtes à Saint-Malo, c'est pour heureux, enfin, oui. Nageant comme des poissons.
Oui, là, on est à...
Oui.
Alors, on fait le tour. Ton prénom et puis...
Mon nom, c'est Herman Mikoui, jeune manon. J'ai 19 ans. Ah, j'ai 20 ans.
Bonne fête.
Ouais. J'ai pas grand chose à dire, moi.
Tu as
un dégât. Moi, je travaille juste durant l'été, puis l'hiver, je m'envoie plutôt à l'école. Là. Ce que je voulais faire ici là, c'est l'artisanat là.
Ouais.
Jouer avec un tam-tam. Mon tam-tam il a été brisé durant le voyage là, pendant le voyage. Fait que j'ai pas pu jouer avec mon tam-tam.
Alors, est-ce que la musique a une grande importance chez vous? Quelles sont les formes culturelles qui prennent une grande importance?
Ben, l'important, c'est on essaie toujours de devenir comme Cashton. Ça a commencé toujours par la musique. Aujourd'hui, plusieurs jeunes commencent à jouer le plus possible de la musique.
Ouais.
Pour pouvoir.
De ce qui se passe.
Puis pour parler de notre culture, tout ça, là, puis la chasse, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, comme ça. Là. Puis aujourd'hui, on essaie de le traduire plus dans la musique.
Ouais.
De ce qui est bon et de ce qui est pas bon, c'est comme ça.
Alors est-ce que c'est de la musique traditionnelle ou un peu un métissage entre la musique traditionnelle et puis et le rock
Ouais, c'est un petit peu mélangé entre la musique folklore et la musique amérindienne, c'est un peu mélangé.
Ouais.
Ça fait que... Mais il y a eu déjà des Indiens qui ont déjà joué la musique traditionnelle. C'est le sens de l'Indien, la musique. Puis aujourd'hui, c'est plus métissage, tu sais. C'est plus un peu le blues, là.
Ouais.
Fait que c'est ça.
Alors, est-ce qu'il y a des groupes tels que le vôtre à jouer à l'extérieur de chez vous, c'est-à-dire de votre réserve, aller et être connu, effectivement, au Québec, au Canada, dans les grandes villes, et à passer et à tourner? Est-ce qu'il y a des groupes vedettes, des gens très très connus qui sont donc amérindiens et qui tournent sur le Québec et qui sont peut-être connus en France? Non,
par chez nous à Tikamek là.
Ben non, non, en général. Enfin,
ben non, il y a Gashton là qui est.
Oui, qui c'est ça. Mal, d'accord. Ouais. Ouais. Ils sont deux là.
Ouais, ils sont deux.
Ouais, ils sont venus passer à Saint-Malo.
Les Gashton sont pas mal populaires là, partout. Là,
ouais. Alors, quels sont vos rapports avec les Québécois, c'est-à-dire les gens qui revendiquent un pays québécois, un pays, le Québec? Bon, on connaît effectivement la volonté indépendantiste des Québécois. Quels sont vos rapports comment vous situez par rapport à eux? Est-ce que vous vous sentez concerné par leurs revendications?
Dans les conditions actuelles, il y a des similitudes. Puis les Québécois l'ont compris, eux aussi. Et on se ressemble jusqu'à un certain point, parce qu'on revendique la même chose, on revendique une autonomie. Autonomie politique, autonomie économique. Puis depuis la crise de l'année dernière, la crise avec les Mohawks, il y a une volonté de penser les blessures, c'est de guérir les blessures qu'il y a eu, puis de se reparler, de se comprendre, de se respecter. Mm. Puis certains leaders ont été approchés là, pour favoriser une telle, je ne sais pas si je peux appeler ça, là, alliance. Puis je sais que certains leaders disent qu'il faut laisser encore passer du temps parce qu'il y aurait trop d'émotivité encore. Il faudrait que ça se fasse dans une objectivité relative là, pour arriver à cette fin-là.
Ouais.
Mais comme je disais, à différents niveaux, que ce soit au niveau des enseignants, au niveau des leaders politiques, au niveau des députés, au niveau de nos conseillers de bande, de nos chefs, il y a vraiment une volonté. Puis, en tout cas, ça prend un bon augure à notre point de vue. Là.
Mm-hmm.
C'est une bonne chose qu'on s'en va dans cette voie-là.
Est-ce qu'il y a un conseil, une coordination entre plusieurs réserves? Et on parlait des Mohawks là, tout à l'heure, mm-hmm. et vous. Est-ce que, je crois que c'est le peuple iroquois.
Mm-hmm.
Est-ce que vous avez une coordination au niveau d'un conseil du peuple ou de la nation iroquoise ou quelque chose?
Il y a une association là, de tous les Indiens du Canada qui s'appelle la Fraternité Nationale des Indiens. Puis tous les chefs ont leur siège, là. Tous les chefs de chaque communauté, quand c'est en assemblée là, pour élire le chef national. Puis quand c'est juste des réunions, là, c'est juste des représentants de chaque région. Tu vois des représentants de la région du Québec, des représentants de la région d'Ontario et ainsi de suite, là, jusqu'à Colombie-Britannique. Puis c'est une association, c'est la Fraternité Nationale, il fait des représentations, puis il y a des actions au niveau national. Ensuite, dans la région du Québec, il y a une autre... une autre association là, qui s'appelle l'Assemblée des Premières Nations. Et la Fraternité Nationale, il y a le même terme qu'ils utilisent. Depuis au moins 2 ans, ça a changé de nom. Puis ils l'appellent l'Assemblée des Premières Nations, l'Assemblée First Nation ou la FN.
Ouais.
Puis c'est la même chose que ce qu'on appelait il y a 2 ans là, la Fraternité Nationale des Indiens. Puis l'Assemblée des Premières Nations de la région du Québec, là, il regroupe toutes les nations du Québec. Ensuite, pour nous autres, là, les Atikameks, et les montagnais, on a un conseil, qui c'est un organisme sociopolitique qui nous représente, là, comme j'expliquais tout à l'heure, ça s'appelle le Conseil Atikamekw-Montagnais. Puis uniquement pour les Atikameks, il y a le Conseil de la Nation Atikamek. Donc il y a toute comment ça s'appelle ça, donc il y a une hiérarchie.
Une hiérarchie, oui.
Ouais.
Ah oui, puis la représentation.
Oui. C'est à différents niveaux.
Mmh. On va repasser donc à ton tour.
Oui.
Ah oui, mais on va reprendre la musique après. Alors. Oui. Après on prend la musique. Toi ton prénom et ce que tu fais.
Moi je m'appelle Rani Nikwe. Je suis musicien, chanteur et. Je suis sans emploi et durant l'hiver je peux faire la trappe, la chasse.
Ouais.
Et moi je veux m'en aller dans la musique, laisser des messages, parler de notre territoire, nos ancêtres et la parenté.
Donc là je sais pas, est-ce que vous allez pouvoir nous chanter une chanson. Et avant de la chanter, est-ce que tu peux nous la traduire, nous la présenter, et ce que vous parlez dedans, ce que vous dites dedans?
La chasse.
Mon chant.
Ah oui, ta chanson.
Oui, je vais parler de
sa chanson à lui.
Ouais,
ok.
Tu nous en parles, quel est le message, et puis après si vous pouvez nous la chanter, hein, d'accord.
Je traduis la chanson.
Oui, maintenant là. Hein?
Okay.
Enfin, en gros, tu nous présentes ce que tu dis dedans.
Moi, je suis à ma naissance, j'étais délaissé, comme mes parents m'ont laissé, sont séparés. Et mon grand-père, c'est lui qui m'a élevé. Et aujourd'hui, il est parti. Puis je pense encore à lui. Je dis merci à lui. Et, tout ce qu'il m'a montré, et il m'a dit je suis ton grand-père, ta mère sont partis, puis t'es avec moi, puis, c'est ça, en gros.
Très bien.
Alain, il est pas possible.
Voilà.